Les conférences du Collège de France.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour cette troisième séance consacrée au néo-hiéroglyphe, avec cette fois-ci un côté peut-être un peu plus pratique, puisque je vous propose, dans la seconde partie de mon exposé, de voir une inscription néo-hiéroglyphique, celle de Hubert Millemans, qui figure ici à l'écran pour l'instant, qui se trouve dans ma bonne ville de Liège, inscription pour laquelle aucune traduction ne nous est parvenue. Donc ce sera l'occasion de mettre en pratique ce que nous allons voir dans la première partie. Un petit résumé pour les inscriptions néo-hiéroglyphiques, on peut en première instance faire deux groupes. Du côté du récepteur, donc du côté du lecteur potentiel. Il y a celles pour lesquelles nous avons une traduction, ou en tout cas une paraphrase, et puis alors il y a celles qui ne sont accompagnées mais d'aucun commentaire, d'aucune sorte. Alors je vous donne ici quelques spécimens d'inscriptions néo-hiéroglyphiques. Je crois que je ne vous les ai pas encore montrées. Vous remarquerez, et c'est important, Le support, les inscriptions néo-hiéroglyphiques, sauf quelques exceptions, sont presque toujours sur des obélisques, pour des raisons que je pourrais détailler un peu plus tard si vous le souhaitez, mais ce n'est pas l'objet ici. Donc, vous avez ici TV, cosmographie universelle, cosmographie du Levant, avec une inscription qui n'est pas autrement commentée dans l'ouvrage. Ça se veut être la même inscription dans deux éditions différentes, mais vous voyez que les hiéroglyphes ne sont pas les mêmes. Vous avez, bon, ceci, je vous le montre simplement pour vous amuser, de Van Heemskerk, les sept merveilles, où il y a, comme vous le voyez, plusieurs obélisques qui sont à l'arrière-plan, mais c'est le seul ici pour lequel il y a des signes. Je ne pense pas que cette inscription ait jamais été la traduction d'un quelconque modèle rédigé dans une langue naturelle. Je pense que c'est plutôt ici des signes qui sont là avec une valeur indexicale, en quelque sorte, pour renvoyer à une certaine image de l'Égypte ancienne. Plus intéressant, en revanche, sont les deux suivants. Alors, le premier, ce sont des cartons qui sont conservés ici à la Bibliothèque nationale de Caron. C'est une, si vous voulez, une mise en scène de la déploration de la reine Catherine après la mort d'Henri II, et où Catherine est assimilée à la reine Artémise. Et dans ces différents cartons qui font quand même largement appel à l'Égypte, vous avez à un moment donné, en arrière-plan, un obélisque avec une série de signes que vous pouvez voir ici. Gentile, la prédication de Saint-Marc à Alexandrie, avec là aussi une inscription difficilement visible parce que sur le tableau, ça n'occupe pas vraiment beaucoup de place. Inscription pour laquelle Dempsey a essayé de proposer une traduction, mais qui a été largement critiqué. C'est un peu une des caractéristiques de ceux qui se lancent dans cet exercice. Et puis alors ici, de Boeckelaer, dans une série de tableaux qui tournent autour de la vie du Christ. Ici, c'est Ecce Homo. Et vous voyez la correspondance qu'il y a entre les deux tableaux de TV et le tableau de Boeckelaer. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée de cette production de néo-hiéroglyphes. Et voilà ce que je voulais illustrer ici. Parmi donc les inscriptions pour lesquelles nous n'avons aucun commentaire ou aucune traduction, il faut à nouveau faire deux catégories. Il y a probablement des inscriptions pour lesquelles il y a un véritable contenu linguistique qui peut être retrouvé. Et j'espère pouvoir vous montrer ça avec l'inscription de Hubert Millemans. Et puis il y a d'autres, nous en avons vu quelques exemples, pour lesquels c'est beaucoup plus douteux. Alors voici un autre exemple qui lui vient d'un tableau de Lambert Lombard, donc l'artiste liégeois que je vous présenterai un peu plus longuement dans un moment. Et sur la base d'un autel, vous voyez sur les deux côtés ici, il y a des inscriptions néo-hiéroglyphiques qui ont été reproduites. Alors, on peut se mettre dans la position de celui qui veut composer une nouvelle inscription néo-hiéroglyphique. Après tout, si l'envie vous en prenait, il n'est pas mauvais que vous ayez aussi le mode d'emploi. Mais le plus vraisemblable est que vous soyez plutôt dans la position du lecteur et que vous vouliez déchiffrer une inscription néo-hiéroglyphique. Alors, comment s'y prend-on ? Comment fait-on ? Je vais plutôt me mettre ici dans la peau de celui qui veut composer une nouvelle inscription. On peut rechercher des modèles. Alors, le modèle le plus connu, celui qui s'est imposé assez naturellement, c'est l'Ipner Automachi à Polyphilippe. Je rappelle, première édition 1499, puisque là, vous avez un certain nombre d'inscriptions, des iconogrammes aussi, et pour lesquels, systématiquement, l'auteur vous propose une traduction assez fidèle, puisque vous pouvez faire vraiment une correspondance signe à signe, mot à mot. Donc, il s'agit vraiment d'une traduction. Il y a quelques glossaires, par exemple celui d'Alberici, dont je vous ai déjà parlé, on est en 1507 à Londres, mais bon, apparemment, il n'a été conservé qu'à l'état de manuscrit, je ne pense pas qu'il ait eu une véritable diffusion. Il y a les recueils d'emblèmes aussi qui peuvent donner des idées, mais les recueils d'emblèmes, on est déjà un petit peu plus tard, on est plutôt dans le second quart du XVIe siècle et plutôt au mi-temps du XVIe siècle. Il y a alors les éditions successives des Hieroglyphica avec des illustrations. Vous avez alors la littérature antique, c'est-à-dire les auteurs anciens qui ont incidemment parlé des hiéroglyphes, c'est-à-dire toujours à peu près selon le même canevas, qui est d'ailleurs celui des Hieroglyphica. Quand les Égyptiens veulent exprimer telle idée, ils dessinent telle chose, et en général, on vous dit pourquoi. Et la raison qui est donnée est généralement une raison qui est soit tirée de caractère naturel, zoologique, ou bien des raisons plutôt de nature symbolique. Et puis, un peu plus tard, il y aura, entre guillemets, la Bible de l'expression symbolique, le dictionnaire de Piero Valeriano. Mais surtout, et c'est pour ça que je l'ai isolé en rouge, il y a une énorme place pour la créativité. Et donc, ce qui veut dire que à chaque fois que vous essayez à déchiffrer une de ces inscriptions, rien n'est jamais vraiment codifié et ça peut réellement être compliqué. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez pratiquement essayer de faire quelque chose, il faut pouvoir, puisque les néo-hiéroglyphes, c'est, je vous l'avais dit, à la fois une écriture, mais une langue aussi, d'une certaine manière, il vous faut un catalogue de signes. Il vous faut alors un lexique où vous associez un signe et une signification, si vous voulez un signifiant et un signifié. Et puis, idéalement, il faudrait quand même quelques règles de morphologie et de syntaxe, parce que si vous tapez comme ça les signes et les mots au hasard, pour avoir alors après un sens interprétable, ça devient compliqué. Alors, je vais passer maintenant en revue quelques caractéristiques formelles des néo-hiéroglyphes, parce que je crois que ça pourrait être utile, et les quelques égyptologues qui sont dans la salle pourront, je crois, peut-être aussi faire certains rapprochements avec ce qui se passe en Égypte ancienne. Alors, il y a des variantes parfois que l'on voit dans les inscriptions, et ces variantes, elles peuvent être significatives ou au contraire, elles peuvent être dénuées de toute signification, du moins à portée sémantique. Alors, le premier exemple que je vous donne, c'est tout simplement deux éditions différentes du même texte. Vous voyez que le vase, ici, le deuxième signe avec un bec verseur, est incliné dans l'Editio Princeps, donc en tout cas dans la version vénitienne, mais que dans l'édition parisienne de De Kerver, le vase est au contraire droit. Si vous regardez l'écriture égyptienne, ce genre de variation peut être significatif. Il n'est pas toujours, mais il peut être significatif. Généralement, dans les inscriptions néo-hiéroglyphiques, ça ne l'est pas, sauf que vous avez parfois aussi des variantes qui sont significatives. Ici, dans la représentation du cosmos, vous avez la représentation qui est la plus traditionnelle, que l'on trouve à peu près partout, c'est-à-dire pour la partie inférieure, la Terre, et puis vous avez le Soleil et la Lune. Et ça, c'est une représentation, c'est un signe qui vient du grand catalogue d'Alberici. Et chez le même Alberici, vous avez cette variante où il a inversé la disposition parce qu'il voulait précisément faire passer l'idée du mundus inferior. Et donc le truc graphique qu'il a trouvé, c'est d'inverser les positions respectives de la Lune, du Soleil et bien sûr de la Terre. Autre exemple, le bucrane, que l'on peut voir parfois sans aucun ornement, mais généralement, il a des ornements qui pendent de ses cornes. Alors ici, vous voyez que ce sont des outils agricoles, et là, vous voyez que ce sont des motifs floraux. C'est une différence qui est significative. Les deux illustrations proviennent du même auteur. Ici, en l'occurrence, ça vient de chez Colonna. Et il y a vraiment une différence. D'un côté, vous avez la clémence pour le signe de droite, et de l'autre côté, la signification qui est la plus généralement celle du bucrane, c'est le travail ou alors une chose pénible. Vous avez aussi la possibilité, et nous y reviendrons un peu plus tard, de lier certains éléments, c'est-à-dire d'introduire quelques éléments de syntaxe, très timide, hein, j'en conviens, et quelque chose qui a été mis au point par Colonna, c'est d'utiliser, vous voyez ici, une banderole, hein, pour lier ces deux signes-là, l'encre et l'oie. Et vous avez ici un autre système sur lequel nous reviendrons, où vous avez une main qui agrippe, ici en l'occurrence, une lampe antique, qui est la manière que Colonna a trouvée pour exprimer la possession. Et donc nous reviendrons là-dessus quand nous ferons un petit peu de syntaxe néo-hiéroglyphique. Il y a aussi certains systèmes qui ont été développés, et ça dira quelque chose aux égyptologues, la répétition d'un signe pour exprimer la pluralité, si ce n'est que dans les langues occidentales modernes, et même pour le latin classique, le duel n'étant plus qu'un vestige, le pluriel commence à deux et non pas à trois, comme en Égypte. Donc le redoublement ici de l'ibis, le redoublement ici du fil à plomb sont des manières d'exprimer le pluriel. Là aussi, nous y reviendrons. Quelque chose de plus subtil est aussi d'inclure un signe dans un autre. Et voici ici un très bel exemple qui se trouve dans la première inscription de l'Hypnerotomachia, où vous avez un autel pour faire des sacrifices, un autel enflammé, et à l'intérieur de l'autel, vous avez un œil ici et un vautour qui lui fait face. La traduction qui est donnée par Colonna lui-même, ou plutôt par le héros Polyphile, est « sacrifie au dieu de nature »,« sacrifica deo naturae ». Et donc vous avez ici l'autel qui représente l'acte de sacrifier. Vous devez comprendre, j'y verrai dans un moment, que c'est un verbe. Ça aurait pu être un substantif ou un adjectif, mais ça, ce n'est pas donné. Et ce qui est dans la valence, en quelque sorte, c'est-à-dire dans la structure argumentale du verbe sacrifier, se trouve inclus à l'intérieur, et vous retrouvez le bénéficiaire de l'offrande, l'œil, c'est-à-dire la divinité. Et puis il faut comprendre, peut-être parce que les deux signes se font face, qu'il y a une relation de dépendance entre les deux, puisque le vautour symbolise ici la nature, c'est une correspondance que l'on connaît, et il faut donc comprendre qu'il s'agit du dieu de nature. Si on n'avait pas la traduction, on aurait pu imaginer un autre type d'interprétation, mais voilà ce qui a été imaginé. Vous retrouvez ici, et là aussi je reviendrai dans un moment, l'œil cette fois-ci qui se trouve inclus dans une semelle pour véhiculer l'idée de soumission à Dieu. Ça aurait pu être la soumission de Dieu, mais théologiquement, c'est un peu moins acceptable. Et donc là aussi, je pense que le contexte est assez clair. Ou bien ici, vous avez une branche d'olivier qui se trouve à l'intérieur d'un vase. Et à nouveau, il y a une relation syntaxique, une relation sémantique, mais c'est au lecteur à la trouver. Elle n'est pas donnée. Vous pouvez avoir des signes complexes, parfois même très complexes, comme ici, nous sommes à nouveau chez Alberici, vous avez une épée, et dans cette épée, vous avez ici une balance, et puis vous avez ici une couronne, le tout étant simplement glosé par justice. Alors que dans d'autres inscriptions, un signe similaire sera lui glosé en fait par l'idée de justice, bien sûr, mais aussi avec des éléments destinés à rendre par exemple la couronne, en disant que la justice est triomphante ou des choses comme ça. Donc vous voyez qu'il y a toujours la place pour une certaine variation. Ici, dans l'inscription dédicatoire pour la joyeuse entrée d'Henri II en 1549 à Paris, vous avez une épée qui traverse un livre et le tout est glosé par Bon Conseil. Je suis vraiment reconnaissant ici à Jean Martin de nous avoir donné la traduction, parce que c'est pas évident de penser que une épée traversant un livre puisse signifier ça. À notre époque, je pense que une épée qui traverserait un livre ou quelque chose touchant à l'érudition serait peut-être pas tout à fait glosé de la même manière. Vous pouvez alors avoir aussi, et ça rappellera peut-être des choses à ceux qui s'occupent des écritures tardives en Égypte ancienne, vous pouvez avoir dans une inscription, nous sommes à nouveau vous reconnaissez ici le signe, nous sommes à nouveau dans cette inscription dédicatoire pour Henri II, vous pouvez avoir un petit tableau qui peut être isolé et qui a sa propre sémantique et à sa propre dynamique. Vous avez ici donc un protome de deux animaux qui, avec une couronne royale qui a l'air d'être posée comme ça sur leur nez, et là ça forme vraiment une idée qui a sa propre autonomie, et vous voyez aussi que la vectorialité générale de l'inscription, puisqu'ici vous avez deux animaux qui se font face, ben la vectorialité générale est bien sûr brisée. Alors, où ont-ils été chercher leurs sources d'inspiration? Je vous ai dit qu'il fallait un répertoire de signes, et si vous avez été attentif, vous aurez tout de suite remarqué qu'il n'y a pas grand-chose d'égyptien dans tout ça. Donc, où ont-ils été chercher les signes? Dans les réalités contemporaines, par exemple, vous avez un sablier ici. Ici, vous avez un fuseau avec une pelote de laine. Il y a des réalités du monde naturel qui ne sont certainement pas égyptiennes. Vous avez un cerf ici avec, ma foi, une très belle ramure qui signifie voir de loin ou longévité. Et ici, vous avez un dauphin, enfin, ce qui ressemble vaguement à un dauphin. Je ne pense pas que ce soit tout à fait dans le répertoire égyptien. Mais vous avez alors surtout des éléments qui proviennent de l'Antiquité classique, romaine, être plus précis, comme par exemple ici cette frise qui provient du temple de Vespasien sur le forum, donc qui était parfaitement visible à l'époque de la Renaissance. Mais surtout, et je crois que c'est une source qui n'a pas été souvent exploitée, la numismatique. La numismatique, était un type de matériel qui était facilement utilisable à la Renaissance, parce que d'abord c'est très petit, il y en avait énormément, on commençait à constituer des collections à ce moment-là, et les artistes, Lambert Lombard, dont j'aurai d'ailleurs à vous parler, est connu pour avoir beaucoup fréquenté les médaillés dans les collections privées et avoir fait des copies. L'intérêt de certaines de ces pièces est d'associer une image à un motif. Donc, par exemple, quand vous voyez, je ne sais pas si je vous en ai mis un exemple ici, oui, voilà, le premier, quand vous avez deux mains qui se serrent et que vous avez alors la légende Concordia ou Pax, c'est assez facile alors de dire, quand je veux véhiculer l'idée de paix ou l'idée de concorde, il suffit alors de dessiner le symbole correspondant. Et vous pouvez faire l'exercice à peu près pour tous les types monétaires qui sont ici à l'écran. Si la corne d'abondance est bien connue. Et puis vous retrouvez ici les deux types dont nous avons traité la fois dernière, l'ancre au dauphin et le crabe et le papillon. En tout cas, ce qu'il n'y a jamais dans les inscriptions néo-hiéroglyphiques, ce sont des hiéroglyphes égyptiens. Comme je l'ai rappelé, je crois, lors de la première séance, au XVIe siècle, il y a un un petit peu d'artefacts qui sont disponibles. Au XVe siècle, il n'y a bien vraiment pas grand-chose. Donc au XVe siècle, ce qui est le plus connu, ce sont finalement les sphinx de Nectanébo, pour lesquels on a déjà des copies. Donc ceci, c'est une copie qui date de 1487 environ. Mais les monuments les plus importants, comme les obélisques, ben, vous savez que les obélisques ont été pour la première fois redressés par Sixte Quint. Donc on est vraiment très très loin. On est en 1582, 4, 5, 6, enfin ce sont une période de 4-5 ans. Quatre obélisques ont été redressés. Le premier d'entre eux étant un peu inutile, puisque c'est celui du Vatican qui est complètement un épigraphe. Et puis alors vous avez, mais là il faut attendre un peu plus longtemps, quelques recueils alors qui ont paru, comme ici celui de Elwa von Hohenburg, mais là on est en 1610, hein, on est déjà beaucoup plus tard. Donc les véritables hiéroglyphes égyptiens, vous n'en trouverez pas dans les inscriptions néo-hiéroglyphiques, même de loin, ça ne les a pas vraiment inspirés. Donc, quand on aborde maintenant la sémantique, supposons qu'on ait pu, on verra les difficultés tout à l'heure, qu'on ait pu identifier un signe pour ce qu'il représente réellement. Après, il faut essayer de trouver une signification. Alors, un signe peut avoir une seule valeur. Mais finalement, ce n'est pas généralement le cas le plus fréquent. Un signe peut avoir plusieurs valeurs, c'est assez fréquent. Je prends par exemple le chien, qui peut exprimer aussi bien l'amitié, la vigilance, le fait d'être attentif, le gardien de quelque chose, mais aussi le respect. Et inversement, une seule valeur sémantique peut être exprimée par plusieurs néo-hiéroglyphes différents. Par exemple, l'idée de roi ou de royauté peut être symbolisée, et vous verrez, vous n'avez aucun problème évidemment de voir les raisons qui poussent à cela, par un aigle, par une couronne, par une épée, ou là, peut-être une allusion un peu plus discrète à l'Égypte, avec un cobra. Mais donc vous voyez que quand on doit déchiffrer une inscription, on a en fait une relation de plusieurs à plusieurs. Et pour peu que l'inscription fasse 15-20 signes, ben le nombre de possibilités, évidemment, augmente de façon exponentielle. Alors toujours dans le domaine de la sémantique, quand on essaye de voir comment on arrive à la signification d'un signe, à nouveau, là, je me tourne vers les égyptologues, on peut avoir des signes qui ont une valeur un peu logogrammatique, si vous voulez, c'est-à-dire que le signe, il y a une relation directe entre le signifiant et le signifié. Mais c'est relativement rare. Je vous en donne un exemple ici. Et si vous avez été attentif, quand on a vu les types monétaires, il y avait notamment le type du temple qui était là, et c'est exactement ce dessin-là. Dans ce cas-ci, temple signifie temple. Voilà. Mais en général, ce n'est pas le plus fréquent. Vous avez le plus souvent une relation de contiguïté, c'est-à-dire que ça peut être des relations de l'ordre de la métonymie ou de la synecdoque. Et ce qui est intéressant, on peut faire une petite classification en fonction des rôles sémantiques. Donc le signe peut par exemple exprimer l'agent d'une action, donc le feu, le signe du feu, pourra exprimer l'action de consumer. Pourrait faire aussi les liens avec le système hiéroglyphique. Un signe peut exprimer l'instrument d'une action, donc un couteau pour couper en deux, le casque militaire pour protéger, on est peut-être là un petit peu dans le symbolique déjà, ou bien alors un signe peut exprimer l'instrument et puis par métonymie une qualité, donc l'encre peut stimuler la stabilité. Un vase avec un bec verseur va exprimer l'idée de quelque chose qui se fait au goutte à goutte, c'est-à-dire petit à petit, et de là, doucement. On peut alors avoir des qualités qui vont être attribuées à un signe, et qui, notamment pour les signes qui dénotent des animaux, qui sont tirés des qualités réelles ou supposées, attribué à cet animal, comme par exemple l'abeille, qui pourra véhiculer l'idée de travailleur, d'industrieux, l'aigle, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il pouvait signifier l'idée de roi, mais qui peut aussi, et là c'est à nouveau dans les Naturalia, et on est très dépendant de textes comme Pline, l'ancien, l'aigle c'est aussi l'animal qui voit de loin, le lion bien sûr, pour exprimer le courage, et l'oie, les oies du Capitole, ça peut être l'animal qui surveille. Ce qui est alors finalement le plus fréquent quand on essaye d'établir une liste plus ou moins exhaustive des néo-hiéroglyphes pour lesquels on a une signification, c'est d'avoir une relation symbolique. Donc par exemple, l'aigle pour le roi, la balance pour la justice, l'étoile ou plutôt la comète pour, en liaison avec l'histoire personnelle de César, l'apothéose de César pour signifier ce qui est divin, la flèche pour désigner la rapidité, la lampe allumée pour la vie, on retrouve le lion parce qu'il y a aussi un côté plus symbolique que toute autre chose, l'oie à nouveau pour qui surveille et le vase brûlant pour signifier l'amour ardent ou la guerre. La difficulté, je crois, d'arriver à un système qui soit immédiatement compréhensible par le spectateur fait peut-être que ceux qui ont composé des inscriptions hiéroglyphiques ont souvent privilégié des signes qui sont en fort contraste, et notamment des relations antithétiques. Je vous ai déjà signalé l'opposition purement iconique ici entre le monde supérieur et inférieur. Voici ici un autre exemple où vous avez l'idée de justice et l'idée d'injustice qui va simplement être visuellement signifiée par le fait que pour signifier l'injustice, l'épée sera brisée. Mais ce genre donc de relation antinomique, antithétique, entre signes est assez fréquent. On retrouve donc dans les inscriptions l'opposition entre la corne d'abondance et le feu. Et là aussi, si on n'avait pas la traduction, on aurait peut-être été en peine de voir que ce qui était réellement voulu par l'auteur, c'était d'exprimer d'une part ce qu'il y a de mieux et d'autre part ce qu'il y a de pire. Le vase brûlant pour la guerre, le vase vidé pour la paix, la flèche volant à droite, ça c'est un bel exemple je trouve, pour signifier la rapidité, et la flèche volant à gauche, non pas pour dire que la flèche va dans l'autre sens, que c'est l'inverse, mais c'est pour simplement exprimer une idée qui est contraire à ce qui précède. Et là, donc ça, la flèche volant à gauche, on aurait pu imaginer que ça aurait pu... Une possibilité aurait été de signifier la lenteur, par exemple, la rapidité d'un côté et l'inverse d'un côté, la lenteur. Mais ce n'est pas ça qui était ici entendu. La flèche, simplement, un peu comme le signe des jambes en mouvement, mais qui va dans l'autre sens, le D55, pour les quelques initiés, peut avoir aussi cette valeur. Le rébus se trouve parfois, mais c'est vraiment exceptionnel, et le seul exemple que je connais vraiment bien provient d'une inscription extrêmement tardive, c'est l'inscription de Spada pour Agostino Carracio, donc là on est en 1603, très très loin, déjà vraiment à la fin de la production des néo-hiéroglyphes, et pour rendre le nom de Carracio, vous voyez ici, il y a des étoiles, il faut d'abord savoir que ce sont des étoiles, je vous les ai mis ici en plus grand, et elles sont censées représenter la grande ours. Vous savez qu'en italien, la grande ours, c'est grande caro, et donc à partir de caro, il avait ce qu'il lui fallait par rébus, alors pour compléter le nom de l'auteur et retrouver Carracci. Bon, c'est vraiment un exemple extrême, et là aussi, si la traduction ne nous en avait pas été donnée, je crois qu'on serait encore 400 ans plus tard à peiner sans l'interprétation. Alors passons maintenant à ce qui relève plus de la morphologie, de la syntaxe, de la rhétorique aussi. Je vous rends la première inscription de Polyphile dans l'édition vénitienne, donc d'Ado Manucci. Vous en avez ici la traduction latine, ou plutôt le modèle latin, en fait, c'est l'inscription néo-hiéroglyphique qui est la traduction de ceci, même si Polyphile le présente autrement. Et puis vous avez ici la version française dans l'édition de Kerver. Alors, comme vous le voyez, les signes se suivent, il n'y a pas de blanc typographique, tout est parfaitement orthonomé dans le cadre, il n'y a aucun moyen de découper quoi que ce soit. Vous voyez, pas moyen de savoir s'il y a une proposition, plusieurs propositions, et s'il y en a plusieurs, où il faut couper. Alors, si on regarde maintenant d'un peu plus près la première phrase, vous voyez qu'il y a dans la traduction deux propositions, et la segmentation passe ici, mais comme je vous le disais, elle n'est pas donnée. Si maintenant vous vous intéressez à l'ordre des mots, Je vous ai numéroté ici en rouge pour la première séquence, en bleu pour la seconde, vous avez les différents signes, et vous avez ici l'ordre dans lequel cela apparaît dans la version latine, et le même exercice ici dans la version française. On peut discuter de tout cela un peu plus tard. Il y a ce cas particulier dont j'ai déjà parlé, qui brise un peu la séquence, mais on voit bien, et c'est très important de connaître quelle est la langue de référence. Et on voit bien qu'en fait, la langue de référence ici est le latin et non pas le français. Ensuite, autre difficulté, et non des moindres, une fois qu'on a plus ou moins réussi à trouver que le bucrane dont pendent ici des instruments agricoles est lié à l'idée de travail, de labeur, encore faut-il savoir si, en l'espèce, ici, on a affaire à un substantif, à un adjectif, à un verbe, à un adverbe, ou que sais-je encore. Et vous avez donc ici je fais l'exercice pour vous, donc le bucrane ici, c'est un substantif. L'autel enflammé, c'est un verbe. L'œil correspond dans la traduction à un substantif, et ainsi de suite. Et vous avez même ici, avec le plaron, qui est traduit par liberaliter ici dans la version latine, vous avez même un adverbe. Rien de tout cela, évidemment, ne vous est donné. Donc la catégorisation des signes, lorsque vous devez passer alors dans une langue naturelle, tout ça doit être refait par le traducteur. Ensuite, les rapports syntaxiques alors entre les différents éléments doivent le plus souvent à nouveau être devinés. Je reprends le tout premier signe ici. On est content de deviner que c'est un substantif, donc labor. Mais si vous regardez la traduction, c'est ex labore. Ça ne vous est pas donné non plus. Il faut là aussi pouvoir retrouver par une analyse argumentale quelle pourrait bien être la fonction de ce signe dans la phrase. Alors on peut, et j'y ai déjà fait allusion, on peut exploiter certaines possibilités graphiques, il n'y en a pas tant que ça, donc j'ai déjà parlé de l'inclusion, je ne vais pas trop m'y attarder. Ce qui est important, c'est, je pense, la valence. Une fois qu'on a réalisé que la semelle indiquait le degré de soumission, le signe qui est à l'intérieur doit avoir une relation. Est-ce que c'est soumis à ou est-ce que c'est la personne qui est soumise? Mais ça ne vous laisse plus que deux possibilités. Et étant donné qu'il s'agit de Dieu, alors là, c'est le contexte pragmatique, je crois, qui vous fait plutôt opter pour une solution plutôt que pour l'autre. Si vous optez pour l'autre, vous pouvez finir sur le bûcher, ce qui n'était jamais une bonne idée. Et ici, donc, j'ai déjà commenté cela aussi. Une fois que vous êtes dans une relation avec deux signes qui se font face, plutôt vous avez l'œil de face ici, et l'aigle a plutôt l'air de regarder l'œil, et ça introduit, je crois, une relation de dépendance que l'on peut peut-être rétablir. Mais à nouveau, on est très dépendant de la traduction. Ce genre d'inclusion, on le connaît, à nouveau c'est pixelisé, on le connaît aussi en Égypte, où vous pouvez avoir là aussi un jeu où vous pouvez inclure un signe dans un autre. Des signes peuvent être reliés par des moyens graphiques. Vous voyez ici un ruban, vous l'avez ici aussi. On est toujours dans la première inscription. Dans le premier cas, ça lie un adjectif et un substantif. Loi pour la garde, la custodia, et l'encre qui exprime donc cette idée de stabilité, firmam custodiam. Dans le deuxième cas, c'est un peu plus compliqué, in columem quae servabit, et il la conservera, il s'agit de la vie, saine et sauve. Est-ce qu'il faut vraiment comprendre que ceci est lié au coffre, donc le coffre c'est pour la conservation, ou bien est-ce que le ruban qui est assez long lie cette phrase-ci avec ce qui précède? Bon, je pense que c'est plutôt la première solution, mais on ne peut pas nécessairement complètement écarter d'un revers de la main la seconde. Donc il y a quand même aussi, malgré ces petits trucs iconographiques, ça ne résout pas, loin s'en faut, tous les problèmes. Alors j'en ai déjà parlé, la main qui tient quelque chose pour exprimer la possession. Donc ici, la lampe romaine qui est une métaphore pour la vie. La lampe doit normalement être allumée. Et ici, vous avez la main, ta vie. Mais voilà, vous savez juste en fait qu'il y a une relation de possession. Pourquoi vitae tuae et pas suae ou nostrae ou meae? Ça n'est pas donné, évidemment. C'est le contexte général qui vous permet de le dire. De même ici, vous avez un soldat qui tient un serpent, qui est une image assez connue pour la prudence. On voit qu'il y a à nouveau une relation entre les deux, mais établir la relation correcte, et c'est à nouveau une matière d'interprétation. Est-ce que c'est la prudence du soldat? Est-ce que c'est le soldat qui est prudent? Enfin, vous voyez qu'il y a moyen quand même de gloser ça de plusieurs manières. Un cas un peu unique, vous avez là un pied qui est posé sur un globe. Là aussi, c'est une manière d'indiquer la possession. Quand vous posez le pied sur quelque chose, c'est... À nouveau, je me réfère à l'Égypte ancienne, quand vous voyez Pharaon qui a ses pieds sur des images d'ennemis, ça exprime bien une possession. Mais regardez aussi la traduction qui a été donnée par Martin. On est toujours là dans la dédicace, l'inscription dédicace à Henri II. Ce petit signe est traduit par tout ça. On dirait presque une traduction de Kircher, où pour un seul hiéroglyphe, vous avez parfois quatre lignes de traduction. Donc tout ça est rendu par « Et si qu'à vous soit soumise toute la grande machine de la terre ». Donc ça fait quand même beaucoup. Et là aussi, on est heureux d'avoir la traduction. Enfin, deux signes peuvent se chevaucher. Donc il ne s'agit pas d'une inclusion. Il s'agit simplement d'un signe qui est mis sur un autre. À nouveau, ça éveille l'attention, ça vous dit qu'il doit y avoir une relation entre les deux, mais cette relation, à nouveau, c'est à vous de la définir. La réduplication ou la multiplication pour indiquer le pluriel, donc voici maintenant la traduction de ce petit bout de phrase. Les Égyptiens, c'est peut-être une seule allusion à l'Égypte, même si elle est un peu bancale, ce sont deux ibis ici qui sont redoublés, et c'est ce qui rend le Aegypti ici. Vous avez les deux fils à plomb ici, exerere pour exererunt, donc vous avez un pluriel. Vous avez le temple ici, et alors vous avez six fois la représentation, vous avez un petit flanc en fait, c'est un flanc de monnaie, répliqué ici six fois, et c'est ce qui rend le aere sourd. Alors pourquoi six fois? Bon, on peut discuter beaucoup là-dessus, ça peut être simplement parce que un certain équilibre graphique qui était recherché, mais par ailleurs, il y a peut-être, me semble-t-il, une allusion avec le blason des Médicis, mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails ici. Alors, il y a parfois alors des effets alors de symétrie qui peuvent troubler alors l'ordre syntaxique, comme dans le cas de cette inscription, Patientia est ornamentum, custodia et protectio via, et c'est ce signe que nous avons déjà vu, qui occupe le centre de la scène, et qui, par son axe de symétrie, distribue alors les deux autres éléments. Mais vous voyez, je vous ai mis à nouveau l'ordre séquentiel correct, et vous voyez l'ordre dans lequel les éléments arrivent. Là, il y a vraiment un effet de la disposition graphique sur l'ordre des éléments. Et là aussi, je crois qu'on peut faire quelques parallèles avec ce qui se passe en Égypte. Sinon, d'un point de vue plus général, la modalité générale de l'exposé, à nouveau, elle n'est pas donnée, c'est à vous de l'établir. Et c'est en fonction du type d'inscription, je crois, que la solution va être donnée. Donc si on vous dit que l'inscription est funéraire, vous allez plutôt peut-être vous attendre à un texte au passé. Si on vous dit que l'inscription est une glorification d'un personnage vivant, ben peut-être une liste d'épithètes au présent. Donc c'est vraiment la pragmatique générale qui va vous orienter. Deux exemples à nouveau. Ici, vous avez, on vient de le voir, un passé. Ici, vous avez un impératif. Rien, évidemment, dans l'inscription hiéroglyphique vous permet de faire la différence. Et ça annonce, sans vouloir évidemment, les différents modes rhétoriques de Kircher, puisque quand Kircher va se livrer à ses traductions d'obélisques, il vous livre parfois plusieurs traductions pour le même texte, mais avec des modes rhétoriques différents. Alors j'en viens maintenant au monument de Hubert Millemans, et avec un petit détour peut-être par Lambert Lombard. Alors, Hubert Millemans, je vous le présente très brièvement. Non, c'est pas grand-chose finalement. Voilà sa carte d'identité. Il est tonsuré en 1522. Il est receveur général du prince-évêque de Liège. C'était à l'époque Georges d'Autriche. C'est un chanoine de l'église Sainte-Croix, donc l'église où il s'est fait enterrer. Il avait aussi d'autres prébendes. Il fait un testament en 1557. Ici, il est pris juste à temps, puisqu'il décède l'année d'après, en 1558. Ce qui fait que le monument dont nous allons avoir à traiter peut être daté d'entre 1558, 59, 60, je crois. Il ne faut pas aller au-delà. En général, les choses allaient assez vite. Alors, voici une carte de Liège qui date du XVIIe siècle. Vous voyez que Liège est une petite Venise. À l'époque, il y avait pas mal de bras d'eau qui circulaient. Et l'église Sainte-Croix, c'est cette église qui se trouve là, qui est bien reconnaissable avec sa tour hexagonale. En voici une carte postale qui date du début du XXe siècle, une photo un peu plus récente. Une photo tout à fait récente, je ne vous en donne pas, parce que l'église est complètement masquée par des échafaudages. Elle est en effet en rénovation pour une petite dizaine d'années. Alors le monument en question, le voici. Vous voyez, c'est un style renaissant tout à fait classique, avec une crucifixion. Nous avons ici le gisant. Ici, nous avons une inscription latine. Vous avez un agrandissement ici. Inscription latine qui n'a pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est quand même de livrer le nom du personnage, c'est déjà pas si mal, et la date de son décès. Et puis, alors, ce qui m'intéresse, c'est sur les deux pilastres, les deux ressauts qui sont de part et d'autre de l'inscription, vous avez ici deux colonnes d'inscription en néo-hiéroglyphe. Donc, pas de traduction qui nous soit parvenue. On peut être certain, évidemment, qu'un brouillon a été fait en latin ou en français. Bon, ça, c'est une question qui reste ouverte, mais il a fatalement dû y avoir un texte au préalable. Donc, quatre questions majeures à nouveau se posent. Le lexique, la morphosyntaxe, le cadrage aspectuel, s'il y en a un, et le niveau rhétorique. Alors, je vous avais dit qu'il fallait peut-être faire un petit détour par la figure de Lambert Lombard. Il faut que je vous explique pourquoi. Alors, les Belges, mais il n'y en a pas ici, je pense, dans la salle, et il faudrait qu'ils aient au moins à peu près mon âge, se souviennent de la figure de Lambert Lombard, parce qu'elle était sur les billets de 100 francs, mais donc tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Donc, le voici. Peintre, architecte, sculpteur, enfin comme on les faisait à l'époque, protégé par le prince-évêque de l'époque, Erard de Lamarque, qui l'envoie à Rome, où il va passer 2 ans, et là il va fréquenter les artistes et les intellectuels de son époque, il va avoir accès à différentes collections, différents cabinets de travail, et c'est là qu'il va réaliser un certain nombre d'esquisses. Il s'était fait construire un hôtel ici, l'hôtel Torrentius, où il a résidé. Je vous le mentionne simplement parce que cet hôtel se trouve à 50 mètres de l'église Sainte-Croix, dans la même rue. Donc c'est ce qui me fait penser qu'il doit y avoir quand même quelques connivences. Donc je l'ai dit, il fait un voyage, on a pas mal d'esquisses et de dessins dans 2 albums qui se trouvent dans les collections à Liège, et il a notamment réalisé quelques tableaux, alors des tableaux qu'il a pu finir, des tableaux qui sont sous forme d'esquisses, et dans ces tableaux on trouve très fréquemment des panneaux avec des néo-hiéroglyphes, pour lesquels évidemment nous n'avons pas la traduction. Alors, on va d'abord commencer par les quelques petites esquisses qu'il a faites. Ce sont de tout petits dessins, hein, c'est tout petit, hein, ça fait quelques centimètres seulement de haut. Et vous voyez qu'ici, donc, je n'ai pas le temps de la commenter, mais vous avez une composition de ce que j'appelle donc ici un iconogramme, et pour lequel vous avez la signification. Alors, traduction ou paraphrase, ça dépend les cas, qui est donné en italien. C'est en effet quelque chose qu'on connaît avec la figure de Lambert Lombard. Il maîtrisait assez mal le latin et donc préfère en général l'italien. Donc voici un autre dessin. Alors là, il ne s'agit pas d'une composition, il s'agit plutôt d'une sorte de glossaire ou de lexique, où vous voyez donc un certain nombre de dessins, ça peut être des animaux, ça peut être des objets, ça peut être aussi de temps en temps des êtres humains, et pour certains d'entre eux, vous avez quelques indications qui ont été données par Lombard, soit pour identifier le signe, soit pour en donner la signification. Donc tout ça se trouve dans l'album d'Arenberg qui est conservé au Musée des Beaux-Arts de Liège. Plus intéressant peut-être pour notre propos est celui-ci, à nouveau une composition, un iconogramme. Alors c'est intéressant parce que vous avez la signification générale, breve veloce la vita dei grandi, et vous avez alors l'identification signe par signe des différents éléments de la composition, si ce n'est le lion qui n'est pas glosé, mais pour le dauphin vous avez festina ici, pour la quenouille vous avez atropos, ici vous avez trunca il filo et vous avez instabile pour la roue. Maintenant si vous essayez de retrouver ces éléments-là dans la tradition du dessus, c'est pas tout à fait ça, mais à nouveau je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails ici. Venons-en à ces tableaux rapidement. Ceci, c'est une esquisse, la guérison de l'aveugle. On est à un moment qui est assez contemporain du tombeau de Millemans. Et vous voyez qu'ici, il y a un obélisque, avec sur cet obélisque un certain nombre d'éléments qui passaient très certainement pour des éléments néo-hiéroglyphiques à l'époque. Ceci est clairement tiré d'une pièce de monnaie, ce sont les éléments cultuels habituels dans le sacrifice suivant le rituel romain. Autre exemple ici, le Christ et la Samaritaine, et vous voyez qu'il met souvent ses inscriptions néo-hiéroglyphiques à des endroits très 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 symbolique, très important, c'est la margelle d'un puits, c'est sur un autel, parfois c'est sur une base de statue, parfois c'est sur un obélisque. Donc ici, c'est, voilà, sur la margelle du puits, ici vous avez une petite inscription, mais les signes sont à peine esquissés en fait, et je doute très fort que Lombard ait voulu ici transmettre véritablement une signification. Une autre esquisse qui se trouve à Windsor, à nouveau sur la base d'un puits, et vous retrouvez ici un certain nombre de signes. Et si on est vraiment attentif et qu'on regarde tous les tableaux de Lombard, on voit que c'est souvent les mêmes signes qui sont convoqués. J'attire votre attention de les retrouver sur le bras ici qui tient quelque chose. On dirait presque le D40 du signe hiéroglyphique, mais évidemment c'est pas ça. Vous retrouvez la semelle ici, vous voyez avec l'œil. Ici vous avez l'encre. Et donc je reprends ce tableau que je vous ai déjà montré, l'offrande de Joachim Repoussé, où vous avez donc des signes hiéroglyphiques de part et d'autre. Et regardez ici la première ligne, c'est vraiment une séquence qui est plus ou moins tirée de Colonna. Mais si vous essayez, alors après vous retrouvez le bras ici qui repousse, si vous essayez après de faire un sens avec ce qui suit, enfin, je vous souhaite bonne chance, moi je n'y suis pas arrivé en tout cas. Voilà un de ces tableaux les plus célèbres, Saint-Denis l'Aéropagite, qui rencontre Saint-Paul. Et là, je pense que ce n'est pas vraiment une inscription, mais vous avez trois symboles différents qui renvoient à la nature divine et au pouvoir divin. Alors, on en revient à Millemans. Deux études ont été consacrées à cette inscription qui date de la fin des années 40, deux Liégeois, Louis de Roy et Guillaume de Tervaren, parus dans la même revue. Alors, c'était encore l'époque où on se disputait, où on le faisait savoir. Donc, Louis de Roy était le premier à faire son étude. Guillaume de Tervaren y a répondu, ce qui a alors entraîné une réponse de Louis de Roy et puis une intervention du président de l'Institut archéologique liégeois qui, dans une troisième alors issue, a décidé que ça suffisait comme ça et qu'il était peut-être temps de passer à autre chose. Une sagesse dont on ferait parfois bien de s'inspirer. Alors, Louis de Roy, c'est un peu curieux quand même, il part du principe que Colonna, en fait, ne représente qu'une tradition secondaire et qu'en fait, il ne maîtrisait pas véritablement l'écriture néo-hiéroglyphique et qu'en fait, la tradition, ou plutôt le mode de communication qu'il a mis au point est proprement hiéroglyphique. C'est-à-dire que tous les signes des inscriptions néo-hiéroglyphiques ont tous les procédés connus de l'écriture hiéroglyphique. C'est-à-dire qu'il y a de l'idéographie, il peut y avoir de l'acrophonie, il peut y avoir du phonétisme. Mais le système, selon Louis de Roy, est fondé sur le latin. Donc en combinant tout ça, il faut, dit-il, retrouver pour chaque signe comment il s'appelait en latin, et ensuite on pourra assembler. Et puis dans certains cas, on peut se permettre de faire de l'acrophonie, donc de ne retenir qu'une partie, en général, bien sûr, la première partie du mot, pas la première lettre, mais probablement la première syllabe. Alors je vous en donne juste un exemple, juste pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit. Voilà la première colonne, donc la colonne de gauche, dans l'inscription de Millemans, qui propose de traduire de la manière suivante, « L'échéance fatale où tu arracheras tes pas au monde effilé ». La seule chose qui me paraît néo-hiéroglyphique, c'est que la traduction est arabiscotée, ce qui est généralement le cas des traductions qui nous sont données à la Renaissance. Mais comment arrive-t-il à ça ? J'attire votre attention sur la lampe antique. Alors, il va chercher un mot d'une rareté extraordinaire, cumbium, qui est apparenté à cumbion en grec. Et alors, par acrophonie, il propose d'en retenir uniquement le premier élément. Et c'est ça qui lui donne le cum que vous avez ici. Ensuite, le rapis a, restez assis, le grappin râperé, à nouveau par acrophonie, vous gardez la première syllabe, rap, et puis vous avez le poisson, je ne sais pas où il a été voir un poisson, parce qu'il n'y a pas de poisson dans les hiéroglyphes de Millemans, mais peu importe, et à partir de piscis, il obtient alors le premier élément pis, et en mettant les deux ensemble, il a rapis, ce qui lui donne alors le verbe tu arracheras. Et le couteau, ça je trouve que c'est là que son inventivité a été la plus grande, le couteau c'est montre que l'on coupe quelque chose, et quand on coupe quelque chose, c'est qu'on s'en sépare, d'où l'idée de l'ablatif, d'où alors la possibilité d'avoir la préposition ab, et c'est ce qui lui donne ici le a dans a mundo. Donc je pense que vous avez vu comment ça fonctionnait, et je pense que Guy de Tervaren a eu quand même quelques bonnes raisons de dire l'année suivante, je pense que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, puisque lui a quand même une meilleure connaissance de la littérature de la Renaissance. Mais ceci dit, même s'il arrive à une traduction, et à nouveau je vous donne ici sa traduction de la première colonne, il va quand même un peu rapidement, puisqu'il considère par exemple que deux signes peuvent correspondre à un seul mot, ce qui est compliqué. Il considère aussi qu'une même idée peut être présentée de deux manières différentes dans la même inscription, c'est un peu compliqué aussi. Il confère parfois des notions extrêmement élaborées à un seul signe, là aussi on dirait du Kircher. Donc le sablier par exemple est rendu à chaque heure qui passe la mort approche, ça me paraît beaucoup. Je dis ça fait penser à du Kircher parce que si vous connaissez un peu le bonhomme, vous savez que le cartouche de Domitien est rendu par Kircher par cinq lignes de traduction. Donc on est un peu dans cette idée-là. Et donc voilà, ça donne cette traduction. La mort toujours foule aux pieds, ravie et consume. Elle tranche tout, la mort. Cette idée aussi d'avoir une répétition comme ça par cataphore de la mort par un signe différent ne me plaît pas beaucoup. Donc, ce que j'ai fait, c'est reprendre cette inscription. Je vous donne ici un inventaire de la colonne de gauche. Il faut d'abord identifier les signes. Bon, moi, je n'ai pas vu de poisson, mais après tout, si vous en voyez un, pourquoi pas. Je vous donne ici les équivalences qui sont données à partir du corpus qui est accessible aujourd'hui. Et donc, vous voyez que parfois, il y a la possibilité d'avoir deux traductions pour le même signe. Et puis, je vous donne ici les références, pas toutes, mais quelques références dans le corpus. Je n'ai retenu ici que les inscriptions pour lesquelles on a évidemment une traduction. Alors, il y a dans l'inscription de Millemans, ici, vous avez une séquence qui est tout à fait remarquable, que vous retrouvez vraiment, j'allais dire, mot pour mot ou verbatim, c'est vraiment ici une citation de l'inscription de Colonna. Et si vous regardez attentivement la manière dont le signe du feu a été fait, je pense que c'est plutôt dérivé de l'édition française que de l'édition Aldine. Et c'est après tout ce qu'on peut attendre vers 1559-1560 à Liège, que le modèle soit plutôt l'édition Kerver de 1546. Alors, il y a aussi des correspondances que l'on peut faire avec certains signes qui ont été traités par Lambert Lombard. Je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Et donc, le jeu, c'est un peu, si vous voulez, pour chaque signe, d'aller retrouver, d'un point de vue sémantique, mais aussi d'un point de vue formel, des points de comparaison avec un corpus qui était plus ou moins consultable à l'époque où l'inscription a été conçue, en restant conscient qu'il y a peut-être d'autres réalisations qui ont disparu entre-temps, évidemment, mais qui étaient disponibles à l'époque. Et donc, je dois aller un peu vite ici, je me suis prêté au jeu de vous donner donc une traduction en latin, et puis de vous donner quand même alors une transposition en français. Donc je vous propose la traduction suivante. La vie est toujours soumise à la mort qui ravit, consume, étrange. Et ça, c'est vraiment la séquence que vous avez chez Colonna, qui ravit, qui consume, étrange, et soumise à la mort, étrange à destinée de tous. Je crois que cette traduction offre l'avantage d'avoir une unité thématique assez simple, qui est tout à fait adaptée à un monument funéraire, et qui est aussi un écho au célèbre Memento Mori de la Renaissance. Et je ne le dis pas comme ça en l'air, puisque sur le monument lui-même, donc nous parlons de cette colonne de texte, si vous avez ici la représentation du crâne avec un os entre les dents, mais surtout, vous avez ici, juste au-dessus, vous avez une inscription. Alors manifestement, les grammaires de grec étaient moins bien faites à l'époque, ou peut-être que celui qui a fait ça était moins attentif, mais vous avez un poblépé télon, et pas télos, considère la fin, donc ça me paraît quand même aller dans le sens de l'interprétation. Alors on peut faire le même exercice évidemment sur la colonne de droite, avec là plus de latitude dans l'interprétation, parce que pour plusieurs signes, il y a la possibilité d'avoir des significations contrastées, des significations différentes. Donc, il y a des signes qui ont plusieurs significations. Je vous l'ai dit, le chien, amitié ou sauvegarde. Le bucrane, travail ou patience, c'est pas la même chose. Il y a une double flèche aussi, tout en bas de l'inscription. Est-ce que c'est contraire et rapide, ou simplement contraire? Et l'identification des signes, même parfois, pose problème. C'est notamment le cas pour l'avant-dernier signe. Donc, c'est vraiment tout en bas de l'inscription. Vous avez ce signe qui a l'air d'être perché un peu sur les deux flèches et que Guy de Tervaren avait interprété comme un aigle. Il me semble que ce qui est surtout caractéristique dans l'aigle, c'est son bec et qu'il faut vraiment le montrer. Donc en général, quand l'aigle est montré de face, la tête est tournée vers la gauche ou vers la droite. Enfin, il faut un profil pour qu'on puisse reconnaître le bec, comme vous l'avez par exemple ici dans les emblèmes d'Alcia. Donc je pense qu'il s'agit plutôt d'une chouette. Et vous avez d'ailleurs ici, dans l'édition Kerver des hiéroglyphica, cette chouette inversée, avec ici une chouette qui se trouve elle, bien perchée sur une branche et qui est une représentation possible de la mort. La semaine dernière, j'étais me balader au cimetière du Père-Lachaise, où j'ai d'ailleurs attrapé un rhume, et vous voyez que cette idée toujours de la chouette de face est bien présente, et j'attire votre attention même sur le fait de la double représentation du sablier et des ailes de la chouette, le sablier qui se retrouve aussi sur la colonne de droite de Millemaz. Ça ne veut pas dire qu'il y a évidemment une interaction ou une liaison entre les deux. Voici le sablier qui se trouve ici. Voici le pseudo-aigle que je préfère réinterpréter en chouette. Et vous remarquez que ici, il n'y a pas de, j'allais dire, de blanc typographique, pas de séparation. La chouette est vraiment ici posée sur la flèche. Alors, à nouveau, le même exercice que tout à l'heure, essayer d'aller retrouver les points de comparaison. Ici, je relève, parce que c'est très connu, la grue qui tient une pierre dans une de ses pattes pour indiquer la vigilance, puisque vous savez, c'est expliqué dans les livres d'emblèmes notamment, l'idée était que si l'animal s'endormait ou devenait distrait, elle lâchait la pierre était censée lui tomber sur l'autre patte, et c'était donc censé la réveiller. Je crois qu'on aurait pu faire l'expérience plusieurs fois avant que ça ne se produise. Il y avait du temps, le sablier lui est bien connu, notamment dans ce célèbre dessin de Dürer, pour une édition des Hieroglyphica qui n'a jamais paru, mais le dessin est conservé à Vienne, mais on retrouve des représentations similaires dans les éditions imprimées des Hieroglyphica. Et donc, je vous propose, mais avec peut-être un peu plus de précaution, la traduction suivante: illumine le monde par une surgarde et par le travail, gouverne ta vie de manière libérale, à l'opposé de la mort, avec noblesse et prévoyance, heure après heure, le heure après heure étant le sablier. Et donc, cette traduction, me semble-t-il, et je vais en terminer par là, me semble suggérer une sorte de balancement ou d'équilibre entre les deux inscriptions, et ça rappelle, je crois, des procédés rhétoriques pour lesquels on peut donner des parallèles. Vous avez ici, à gauche, un rappel de la mort qui est inéluctable, une inéluctabilité de la mort qui, quel que soit votre statut, quels que soient les honneurs que vous avez pu avoir de votre vivant, ben, elle s'impose à tous. Et puis vous avez alors à droite une toute autre modalité, c'est un appel à la rectitude morale. Et je vous signale simplement que cet appel à la rectitude morale, on le trouve précisément dans d'autres inscriptions néo-hiéroglyphiques, comme par exemple dans la toute première traduction, dans la toute première inscription du Polyphile, dont on a vu que l'auteur s'était inspiré, puisque vous avez ici un groupe de quatre signes qui est là. Sacrifie libéralement de ton labeur au dieu de nature, peu à peu tu réduiras ton esprit en la soumission, en la subjection de Dieu, qui par sa miséricorde fera surgarde de ta vie, et en la gouvernant, la conservera sain et sauve, ou, comme on le voit aussi dans une inscription d'Alberici, c'est un appel à se comporter, à se gouverner, comme il dit, te gubernes, de manière prudente, prudent évidemment dans le sens de la renaissance, dans le monde. Donc je crois que c'est un écho peut-être que l'on peut avoir de cette double face de la même réalité, en quelque sorte, le rappel de l'inéluctabilité de la mort et donc du jugement qui viendra derrière, et un appel alors au cours de sa vie à se comporter de manière honnête et prudente. Et voilà, avec ça, j'en ai terminé pour la lecture d'aujourd'hui. La fois prochaine, nous clôturerons le cycle avec une figure tout à fait étonnante, qui est celle du père Kircher, qui est à la fois un homme de la contre-réforme, comme je vous l'expliquerai, donc il n'est plus quelqu'un de la Renaissance, mais par certaines de ses manières de raisonner et par la manière surtout dont il aborde l'écriture hiéroglyphique, il va conserver en fait tous les principes épistémologiques et méthodologiques de la Renaissance. Mais pour ça, il faudra encore attendre une semaine. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.